voix nue. Cette semaine, Christine O'Krent s'entretient avec Jacques Séguéla. Ce soir, le plus beau jour, c'est demain.
Bonsoir Jacques Séguéla.
Bonsoir.
La dernière fois que nous avons discuté ensemble, vous nous avez promené en fait dans l'histoire politique récente. Vous nous avez raconté Mitterrand, que vous avez réussi, Jospin, que vous avez raté. Vous nous avez raconté aussi votre conversion, si j'ose dire, à Nicolas Sarkozy. Au-delà de ces personnalités qui continuent de marquer de leur empreinte la mémoire politique de notre pays, qu'est-ce que vous avez compris de la France et des Français tout au long de ces 60 dernières années ? En commençant peut-être par la politique, mais pas que la politique, parce qu'en fait, votre boulot, ça a été la consommation.
Ben oui, 90% de mon job, c'était la consommation, la politique.
Alors, est-ce qu'il y a une correspondance entre les deux ?
Oui, il y a une correspondance parce que c'est le même public. Ce qui change, c'est la qualité du produit. Le produit suprême, c'est évidemment un président. C'est déjà un homme, et puis en plus, c'est l'homme au-dessus des hommes, c'est un président qui rend tout d'un coup la communication un peu sacrée. Dans le cas, il faut s'engager avec une morale absolue, il faut s'engager avec une éthique absolue. J'ai été comme un dictateur qui sont venus, y compris Kadhafi, qui me proposait un million de dollars par an pendant 10 ans payés en Suisse. C'est la double faute. Bon. Et combien d'autres? Bon.
Donc, et vous avez fait beaucoup de campagnes, je le mentionne en passant, parce que tout le monde
ne sait
pas.
Oui, j'ai fait 16 campagnes en dehors de la France.
Dans des pays de l'Est, après la chute du rideau de fer.
Oui, en Israël, au Chili.
Mais pour en revenir à ce lien, donc, entre les Français, qui, franchement, sont des gens compliqués, on l'a vu tout au long de toutes ces années. Comment faites-vous cette équation, justement ?
Alors, d'abord, les Français sont schizophrènes, parce qu'ils aiment avec passion, et ils rejettent avec passion, sautant, eux aussi ne sont pas toujours de leur avis, sautant de l'un à l'autre d'une façon inconsidérée. D'ailleurs, on voit bien que tous les présidents sont élus avec 50, 60, 70% des voix.
70, jamais. Hein,
enfin, 80, Chirac, 80, face à Le Pen, Chirac 80. Bon. Oui. Mais que 3 mois après, ils tombent tous à 30%. Il y en a même qui arrivent à tomber à 20%, comme ce pauvre malheureux Hollande. Donc, ils n'ont pas le côté arien de la politique.
C'est quoi le côté arien de la politique ?
Le côté tout le monde marche au pas dans la même direction.
Ah oui, heureusement.
Heureusement, c'est une qualité. C'est une qualité, puisque j'ai même dit que c'était ma seule qualité. Ça ne peut pas être toujours de mon avis. Bon. Deuxièmement, c'est un pays de racines très profondes, qu'il ne faut jamais oublier. D'ailleurs, la force tranquille le dit très bien. Qui fait qu'il y a une volonté de progrès et une sorte de peur du progrès. Les pays comme l'Amérique qui sont malades de progrès, Israël malade de progrès, les Chinois malades de progrès, les Japonais malades de progrès. Nous qui avons tellement inventé dans le passé, en particulier tout ce qui touche à la communication, la photo, le cinéma, la publicité, tout ça est né de cerveau français. Nous freinons lorsque il faut sauter en marche dans le train du progrès. Or, le monde va très vite et la France va son pas. Ce qui est sa force, parce qu'il y en a beaucoup qui, à force de trop partir vers le progrès, finissent par trouver le vide. C'est pas le cas des Français qui y vont résolument. Après, on a un défaut. Je pense même que c'est notre seul défaut. C'est la jalousie. On trouve toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin et on veut manger dans l'assiette de son voisin. Cette jalousie, c'est le phénomène des gilets jaunes qui va être tellement représentatif pour moi de l'esprit français, cette jalousie, à un moment donné, elle devient frustration. Pourquoi lui, il a de la soupe dans son assiette et moi, j'ai de l'eau. Cette frustration, en la poussant plus loin, elle devient revendication. Et cette revendication, elle devient colère, elle devient peur et elle devient casse. Quand la colère se transforme en casseur. Alors, ça ne veut pas dire que les Français sont des casseurs, ça n'a rien à voir. Mais tout d'un coup, ils acceptent même, pense que les gilets jaunes eux-mêmes ont accepté d'être pris pour des casseurs. Comment ils n'ont pas rendu compte que ça les dénigrait totalement? Bon, parce que c'est l'enchevêtrement de l'esprit français. Ensuite, ce sont des gens romantiques, les Français. C'est pour ça que je les aime. Ce sont des gens qui, finalement, au bout du compte, vont fondre devant un beau discours, devant un film qui va les faire pleurer, devant une chanson immortelle, à la Piaf ou à une autre, beaucoup plus que tous les autres pays du monde. Donc, cette espèce de pouvoir un peu anarchique, où l'on saute d'un truc à l'autre à toute vitesse, mais qui a un cœur gros comme ça, c'est ça pour moi qui fait un Français.
Cette société française, elle est néanmoins traversée par un phénomène qui bouleverse en particulier la politique, mais aussi la consommation. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont les géants du numérique américain, les GAFA. D'ailleurs, vous avez écrit un livre avec, comme toujours, un très bon titre, « Le diable s'habille en GAFA ». Comme vous portez du Prada la plupart du temps, vous n'avez pas dit « Le diable s'habille en Prada ». Mais les réseaux sociaux, jusqu'à quel point est-ce que ça bouleverse d'abord les métiers de la publicité? Commençons par là.
Bien sûr, ça bouleverse la vie, avant tout. Parce que les réseaux sociaux, ce sont des torrents de haine. Ne passe dans les réseaux sociaux que le pire, jamais le meilleur. On voit jamais un enfant qui naît sur les réseaux sociaux.
On voit des petits chats.
On voit les petits chats. Ça montre bien d'ailleurs le niveau. Et autant dans des pays comme l'Amérique ou d'autres, les réseaux sociaux ne sont pas pris au premier degré.
Regardez avec Donald Trump, franchement.
Mais oui, mais Trump, c'est quand même le pire de l'Amérique.
Oui, simplement.
C'est une partie de l'Amérique, mais c'est quand même le pire de l'Amérique. Ben, chez nous, quand même, les réseaux sociaux, c'est la possibilité de déverser cette espèce de jalousie rentrée que l'on a en manière de manifestation. Et c'est pour ça que les grèves s'éternisent chez nous. C'est qu'en Belgique, les grèves durent un jour.
Et oui, puis, ils n'ont pas de gouvernement, ils s'en accommodent. Oui,
donc on rediscute après et on fait un jour de grève. Chez nous, la grève ne gagne que si elle dure un mois.
Comment est-ce que les réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait l'individualisation de chacun, chaque consommateur, en fait, et surtout quand il achète en ligne, atomise le marché? Donc comment est-ce que cela influence votre métier, comment est-ce que ça influence la publicité?
Mais c'est le renversement total de la publicité. Au XXe siècle, j'avais des bombardiers qui étaient non pas chargés de bombes, mais chargés de spots, que j'envoyais au journal de 20h. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul journal de 20h. Il y avait 10 millions de Français qui regardaient le journal de 20h.
Enfin, il y en avait deux, mais bon.
Oui, au début, il n'y en avait qu'un en publicité. Après, il y en a eu les deux. Et pour toucher 1 million de personnes susceptibles d'acheter une voiture dans l'année qui vient, j'envoyais mes tapis de bombes, de napalm, qui ratissaient tout sur 10 millions de Français qui ont fini par être saturés. Trop de pubs a fini par tuer la pub. Pub totalement inutile. Alors le grand événement, évidemment, de la nouvelle communication, c'est que on va cibler, et même maintenant les télévisions elles-mêmes ciblent différentes. Il faut aujourd'hui faire des films à plusieurs sorties, etc. Et la télévision sait les envoyer où il faut quand il faut. Donc c'est un progrès énorme, d'abord économie budgétaire, mais surtout efficacité, parce qu'on va pouvoir parler à chacun le langage qu'il attend au moment où il est disponible pour faire l'achat dont il rêve.
Mais cela veut dire aussi que les grandes agences, y compris la vôtre, puisque vous êtes toujours très actif au sein de l'agence Havas, qui fait partie maintenant du groupe Vivendi, vous avez maintenant de grandes entreprises de conseil qui ne sont pas des agences de pub et qui, grâce à cette atomisation et ce ciblage extrêmement précis, finalement, propose aux entreprises qui sont leurs clients aussi, en fait, de faire de la pub.
Oui, ce sont les Accenture, les Deloitte, les Capgemini, qui pour l'instant, évidemment, nous font mal parce qu'elles prennent une partie du marché, mais qui ne vont pas réussir. Parce que tout le monde dit que le nouveau média, c'est la data. Non, le nouveau média, c'est l'idée. Parce qu'une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. On appuie sur la gâchette, rien ne sort. Plus il va y avoir de progrès technologiques, plus il va y avoir de possibilités de cibler, plus il faudra de créativité. Alors, les mauvaises langues disent que la publicité est en train de mourir. Pas du tout. La créativité dans la publicité est en train de renaître plus que jamais, parce que tech sans affect n'est que ruine de l'homme. Et tech sans idée n'est que ruine de la publicité. Donc, plus les choses vont aller, et on voit bien déjà, dans, ne serait-ce que dans le marché d'aujourd'hui, les grandes agences qui ont énormément investi dans le numérique sont en train de perdre 20-30% à la bourse, alors que les agences comme Omnicom, qui est la plus belle, enfin, groupe du monde, etc., avec trois agences magnifiques américaines, et même nous qui sommes, même si on est des nains par rapport à ça, qui sont les apôtres de la créativité, sont des agences qui résistent beaucoup mieux que les autres.
Mais il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent, les influenceurs. Donc, qui sont souvent de très jeunes gens qui sont sur Internet, ils ont leur, non pas leurs clients, mais ils ont leurs fans. Ils en ont 10 000, 30 000, oui. 3 millions, oui, et alors il suffit qu'une petite fille dise « Ah, mais moi, j'aime ce rouge à lèvres », et alors tout à coup, craque. Oui. Et alors, comme elle est maligne, elle va bientôt mettre son propre nom sur le rouge à lèvres, etc.
Enfin, les influenceurs...
Et c'est pas Estée Lauder, donc...
Les influenceurs, ce n'est rien d'autre que des journalistes de mode. Elle, Marie-Claire et les autres ont fait la loi à leur niveau à eux, à leur petit niveau, parce qu'ils tiraient à 300 ou 400 000 exemplaires. C'est eux qui dirigeaient deux lignes dans le journal, ou une simple petite photo en bas à droite, qui dirigeaient le goût des Français. Les influenceurs sont nés de ça, mais ils ont évidemment une diffusion que n'aura jamais un magazine et plus jamais de sa vie. Mais ça va se retourner contre eux. Parce que jusqu'à présent, le public pensait que il le faisait gratuitement, que c'était pour le bien-être du consommateur. Pas du tout, c'est pour leur portefeuille.
On n'a jamais pensé que les publicitaires faisaient ça gratuitement.
Non, mais c'est pas la même chose. La publicité, c'est dit. On sait que la publicité, mais le public reportage est interdit par la loi. Et heureusement qu'il est beaucoup milité pour qu'il soit interdit par la loi. Il faut savoir séparer en permanence le côté rédactionnel du journaliste du côté publicitaire de l'annonce. Et donc, il y aura un retour de bâton sur ces influenceurs quand on comprendra que finalement, ils ne font ça pas du tout par goût ou par talent, mais uniquement par frénésie du billet de banque.
Il y a un autre phénomène qui a accompagné tardivement votre long parcours dans la publicité et dans la communication, c'est la féminisation, c'est-à-dire la transformation jusqu'à un certain point de l'image de la femme, en tout cas telle que les femmes elles-mêmes, qui restent les consommatrices en majorité, la ressentent. Donc on voit aujourd'hui des femmes plus âgées, ça ne se voyait jamais jadis, des femmes plus âgées qui sont utilisées. Oui. Dans certaines publicités, jusqu'à quel point est-ce que...
Il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que 80% des consommateurs sont des consommatrices. Mmh. Parce que c'est elles qui achètent, et qui achètent même pour leur mari. Ce sont les femmes qui achètent les slips de leur mari. Et donc, la femme, peu à peu, a pris de plus en plus d'importance dans la communication. Deuxièmement, la publicité a tellement forcé, la publicité et les médias, et Hollywood, et les Miss Monde, etc., ont tellement forcé sur le fait de rendre...
L'érotisation.
Mais surtout, de faire de la femme un objet de consommation. Que la femme, et ça a d'ailleurs donné le féminisme, et ça a donné les MeToo, etc., s'est rebellée un jour en disant, on va arrêter...
Et en même temps, ça continue. On voit quand même toujours des filles...
Ça continue. Si c'est sublime, fait, avec, beaucoup, si c'est fait avec beaucoup de talent, si c'est de l'érotisme, si ça ne va jamais plus loin, et si ça fait très attention... de ne pas toucher la fibre féministe qui s'est éveillée en toute femme aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était simplement les femmes de gauche, disons plus ou moins intellectuelles, qui s'aiment au moment. Maintenant, il n'y a pas de femmes... Il n'y a pas de femmes sans féminisme. Elles ont raison. Alors que les hommes, eux, ont mis vraiment leur machisme dans leur poche et aujourd'hui, ils rasent les murs. Donc, je crois que pour l'instant, ce sont les femmes qui doivent venir vers nous et non plus les hommes qui doivent aller vers elles.
Il y a un autre phénomène aussi qui a beaucoup changé, me semble-t-il, votre industrie, comme il est en train de changer la politique, c'est le multiculturalisme et le genre. Je crois que, en ce moment, ça ne va peut-être pas durer, mais je crois que toutes les reines de beauté de tous les concours internationaux ou les grands concours nationaux sont des femmes de couleur.
Oui, c'est le cas de notre Miss France cette année. Hein.
Et donc, jusqu'à quel point on prend en compte désormais aussi cette sensibilité-là. Est-ce que cela impose D'autres règles de comportement, d'autres critères? Ouais.
Mais d'abord parce que dans les études que l'on fait en permanence pour nos marques, etc., parce que la publicité est le métier le plus vérifié du monde et le plus testé du monde, on s'est aperçu que ces minorités n'étaient plus des minorités. En tout cas, elles jouent un rôle de majorité dans la communication, dans l'avancée des choses, dans la modernisation, dans le grand métissage qui sera quand même la victoire finale de l'humanité, j'espère, dans un siècle, dans deux siècles, dans trois siècles, hein, et qui supprimera toutes les guerres de religion et toutes les guerres de raciales que l'on a pu avoir.
Là, on reconnaît bien l'optimisme professionnel.
Oui, mais ça arrivera. Donc, évidemment, le publicitaire maintenant essaye de coller au plus près de l'acheteuse moyenne, de la consommatrice moyenne de la marque qu'il vend. Alors évidemment, quand il prend Miss Dior, il va prendre une jeune fille un peu éthérée, assez jolie, mais rebelle. Hein, la dernière, elle est belle d'ailleurs, la dernière pub, etc. Jusqu'où êtes-vous allé? C'est une fille qui se jette d'une plateforme et qui tombe 20 mètres plus bas dans la mer. Et en sortant, elle dit, jusqu'où êtes-vous prêt à aller par amour? Il n'y a qu'un Français qui peut faire ça. Bon.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais enfin, elle sort de l'eau. Néanmoins, on voit aussi, sinon une masculinisation des mannequins en particulier, ou un mélange des genres féminin-masculin, qui est aussi un phénomène dans la mode,
oui,
en tout, qui est très
frappant,
enfin, moins dans la pub.
Oui, mais le mannequin reste quand même encore le mannequin filiforme, hélas, qu'ont voulu les couturiers. Un jour, ils sont engagés à dire, on mettra plus le mannequin maigre, sinon d'ailleurs, on aura une amende, parce que c'est puni par la loi d'utiliser des mannequins trop maigres, ça ne fait rien, c'est regarder les collections, elles ont peut-être pris un kilo, mais elles n'en ont pas pris deux. Donc, je pense que cette mode restera toujours. Pourquoi? Parce que c'est plus séduisant de voir un modèle d'une robe sur une femme longiligne que sur une femme
sur un petit tas, ça c'est vrai.
Exactement, exactement. Mais il y a des campagnes où on utilise justement des femmes d'un autre âge pour forcer l'attention et qui marchent très bien parce qu'il n'y a pas d'âge pour consommer, il n'y a pas d'âge pour être belle et il n'y a pas d'âge pour être une femme.
Est-ce que le niveau de tolérance, selon vous, augmente dans nos sociétés? Est-ce que la communication
Non, on est dans l'intolérance totale. Ce mouvement venu d'Amérique de pudibonderie, qui est monstrueux, est en train de gagner l'Europe, et il gagne l'Europe. On aurait pu penser que ce serait par l'Angleterre. Pas du tout. L'Angleterre reste toujours rebelle. Mais la France s'est mise à genoux devant les Américains. Et aujourd'hui, on n'ose même plus parler devant un micro en disant, si jamais je dis un mot de trop, je vais me faire lyncher dans les réseaux sociaux. Et tout le monde retient sa langue. Quant aux politiques, il suffit qu'il y ait un tout petit dérapage ridicule pour que ça fasse trois jours de numérique. Donc, il y a toujours l'image de la femme beauté sceptrale qui porte haut la mode. Mais en parallèle de ça, plein de produits du quotidien qui cherchent la proximité. Parce que cherche une marque? À se faire aimer. Elle cherche à se rapprocher le plus possible de sa consommatrice. Et puis aujourd'hui, il y a surtout la notion de communauté, où une marque réussit si elle crée ses propres communautés, ou même ses propres communautés avec le même produit, presque sous des emballages différents, presque même avec des marques différentes. Donc c'est ce besoin de personnalisation à plusieurs, qui reste très français, parce que la France, c'est un pays quand même très collaboratif, hein. C'est un pays d'égoïsme, mais c'est d'égoïsme à plusieurs. Et la publicité utilise cette veine-là.
La très jeune génération, celle qui se mobilise pour l'environnement, celle pour qui Greta Thunberg, cette jeune Suédoise, est l'héroïne et incarne en quelque sorte à la fois leur angoisse et d'une certaine manière leurs espoirs, jusqu'à quel point, selon vous, dans les années qui viennent, dans ce futur, jusqu'à quel point cette génération-là va transformer les codes de comportement depuis la consommation jusqu'à la politique, parce qu'au fond, c'est la même chose.
C'est mon prochain livre qui s'appelle « Où va le monde ?» Et justement, où va le monde dans ce réchauffement climatique, dans la biodiversité, dans tous les problèmes, dans la fuite de l'eau. Dans 10 ans, il n'y a plus d'eau à Istanbul, dans la démographie, dans tous les problèmes du moment. C'est cette génération-là qui va nous sauver. D'abord, cette génération, elle est née avec des écouteurs à la place des oreilles, avec des micros à la place de la bouche, avec des pouces à la place des mains. Elle est totalement numérique, avec un fossé incroyable avec les autres générations. Donc elle a une autre culture, elle ne lit plus, mais elle connaît plus sur le monde qu'un homme de 60 ans, parce qu'ils sont en permanence connectés avec le monde sur leurs différents écrans, leurs différentes tablettes, leurs téléphones. Et ils ont besoin d'une nouvelle religion, puisque toutes les religions sont en train de mourir ou de baisser, en particulier la religion catholique en France. Il n'y a plus que 80% des catholiques en France. Moi, je suis né, il y avait 80% de catholiques. Ça s'est complètement inversé en une vie d'homme. C'est épouvantable. Et cette jeunesse, elle cherche une nouvelle religion. Et la nouvelle religion, c'est justement la nature. Et on en revient d'ailleurs à Rousseau.
Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que vous faites partie et je n'insiste pas lourdement sur votre âge, ce serait malvenu. Mais est-ce que vous faites partie...
Mais moi, je suis très fier de mon âge.
Est-ce que vous faites partie de ceux et de celles qui disent ben, finalement, tout ça, c'est affreux, les réseaux sociaux, c'est épouvantable, l'emprise de ces géants américains sur nos vies, le fait que Amazon, Facebook, etc., ils savent tout de nous. Est-ce que c'était mieux avant ?
Non, je crois que ça n'est jamais mieux avant. Je crois que ce qui est la force du monde, c'est qu'il se réinvente en permanence, qu'il s'améliore en permanence. Je vois toujours les syndicats, par exemple, qui pleurent sur le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, il a doublé en France en 50 ans. Et il va encore doubler en 50 ans. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup trop de... Quand il pense qu'il y a 8 millions de pauvres en France, c'est absolument scandaleux. Et que si la politique était mieux faite, il y en aurait peut-être moitié moins et ce serait mieux. Mais revenir en arrière ne sert à rien. Moi-même qui ai tapé contre les GAFA dans mon livre, ai prévenu avec 2 ans d'avance ce qui allait arriver sur notre profession, ce qui allait s'abattre sur notre profession, qui est là, s'abat aujourd'hui sur notre profession, on vient d'en parler. Je reste quand même un fan du progrès. Il faut savoir que quand il y a progrès, il y a risque. Le jour où on a inventé la roue, il y a 6000 ans, dans les contreforts de l'Europe, on a inventé la mort sur les routes. Mais les gouvernements ont inventé la prévention routière. Moi, je demande simplement qu'il y ait une prévention numérique. Je demande simplement que ce progrès qui nous attend ait des règles communes, mondiales, qui les remettent à leur place. Je ne peux pas accepter, par exemple, que les GAFA deviennent demain un État numérique. Aujourd'hui, ils représentent 1,5 fois le PIB de la France. Dans 10 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 30 ans, c'est le PIB du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fera devant 4 garçons dans le vent, en plus américains, qui chacun, aujourd'hui, pèse 1 000 milliards de dollars, demain vont peser 100 000 milliards de dollars, et qui seront les plus riches du monde, et qui auront des milliers et des milliers de données personnelles pour les occuper? Eh bien, justement, il faut résister. Mais il ne faut pas résister vers le passé, il faut résister en allant vers le futur. Le futur a de l'avenir.
Le futur a de l'avenir. Est-ce que nous autres, Français, Européens, nous avons les moyens de nous y atteler ?
On n'a pas les moyens de faire un GAFA aujourd'hui. Il faudrait, pour faire un GAFA, s'allier avec les Indiens, qui sont très proches de nous, d'ailleurs, dans leur qualité mathématique, etc., et dans leur qualité numérique. Ben, ça serait difficile parce que on a besoin de peser 1,5 milliard si on veut lutter contre la Chine, si on veut lutter contre les autres pays, etc. Donc, ce serait la seule façon dont ce serait possible. Mais déjà, la Chine a ses GAFA qui vont bientôt être aussi importants que... Donc, la guerre des GAFA va commencer. Ils vont s'auto-détruire. Et puis l'Inde, si on ne le fait pas avec eux, vont le faire d'eux-mêmes. Ils vont peser 1,6 milliard en 2050. Ce sera le continent le plus peuplé du monde, l'Inde. Donc, ces gros mastodontes vont se neutraliser eux-mêmes les uns les autres. Nous, ce que l'on peut apporter à ça, nous, on le sait bien, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de GAFA, mais on a des idées. On peut apporter la créativité. Et c'est là, justement, que l'on va pouvoir amener cet esprit français, cet esprit des Lumières, qui nous a toujours sortis de toutes les ornières.
Est-ce que la nostalgie, parfois, vous étreint ?
Non, moi, je n'ai de nostalgie que du futur. D'ailleurs, j'ai failli appeler mon livre « La nostalgie du futur ». Puis j'ai trouvé que c'était un peu trop poétique. J'étais plus terre-à-terre, je l'ai appelé « Où va le monde ?» Entre nous, vaste programme.
Et ça, c'est quoi ? C'est votre 35e livre ? Le premier, c'était « Le tour du monde ».
Oui, c'était « La Terre en rond ».
La Terre en rond, pardon, « La Terre en rond ».
Le deuxième,
c'était « Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire ».
Pas du tout. « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la piscine, elle me croit pianiste dans un bordel ».
Voilà. Et donc, le prochain livre...
C'est le 33e, l'âge du Christ.
Eh bien, je disais, je crois que je n'avais pas tort quand nous avons commencé cette conversation, et je vous en remercie, je disais que vous aviez la ferme intention de vieillir jeune, et je crois, Jacques Séguéla, merci, que vous nous en avez fait l'ample démonstration.
Vieux, c'est mieux.
Fin de ces entretiens entre Christine Ockrent et Jacques Séguéla. À voix nue, prise de son Fabien Gosset, Arthur Dumont, réalisation Midia Portis Guérin, François Connac, attaché d'émission Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.